J'aperçois la main verte d'Alain Baraton. Bonjour Alain.
Bonjour Eric, bonjour Patricia, bonjour, bonjour à tous.
Vous avez découvert un bien bel endroit près de Perpignan.
L'arboretum de Canet en Roussillon, un jardin de 11 hectares avec vue superbe sur le massif du Canigou. Le lieu est géré par le Centre catalan d'études pour l'agronomie méditerranéenne et l'environnement. Et l'on y cultive une importante collection d'arbres fruitiers comme les pêchers, brugnonniers, abricotiers, cerisiers, pruniers, pommiers ou encore poiriers.
Et dans cet arboretum de Canet en Roussillon, on y voit aussi une belle collection de figuiers.
Plus de 50 variétés, dont certaines très anciennes, comme la Marseillaise, décrite dès 1600, ou la Blanche d'Argenteuil, signalée en 1657. On y voit aussi une collection de cépages, qui est d'ailleurs reconnue depuis peu comme collection nationale de cépages du Languedoc-Roussillon, et bien sûr des oliviers. L'arboretum, qu'il est aussi possible d'appeler parc botanique du Maroussillon, présente 250 arbres groupant 31 variétés dont une qui produit des olives blanches.
Et en quoi est-il nécessaire de conserver toutes ces variétés ?
Il est indispensable de le faire pour plusieurs raisons. La première à mes yeux est que les variétés les plus anciennes, si elles ne sont pas les plus productives, sont souvent celles qui résistent le mieux aux maladies et pourraient donc demain nous être fort utiles. Il est aussi bon de se souvenir que les espèces fabriquées par l'homme font partie de notre patrimoine.
Et l'arboretum présente aussi quelques pépites.
Comme des oliviers âgés de 400 ans et récupérés dans un champ après qu'ils aient été arrachés pour y planter des pêchers, sans commentaire. On y voit aussi des pieds superbes de caroubiers.
Des caroubiers, quand cet arbre fut-il introduit en Italie ? Il fut appelé d'ailleurs carato.
Eh oui, carato qui a donné cara comme l'unité de masse pour le commerce de l'or et des pierres précieuses. Un cara vaut 0,2 grammes, le poids exact d'une graine de caroubier, une graine qui servit longtemps de poids de mesure pour les Égyptiens pour devenir la référence en joaillerie.
Oui, il a aussi créé un jardin xérophyte.
Alors, j'aime bien dire toujours, par rapport à Patricia, donc l'étymologie des mots, du grec xéros, qui signifie sec, et futon, qui désigne la plante. Je le dis parce que je connais, Patricia, votre passion pour la langue française.
Et pour le futon, au passage.
Oui, c'est un...
Je ne dis rien, Mais je ne ferai plus jamais de massage quand vous avez mal au dos, quand vous arrivez à 7h du matin.
C'était très gentil, pourtant, je ne comprends plus. C'est un espace, disais-je, l'espace xérophyte, dédié aux cactées et autres succulentes. L'arboretum est entretenu par une équipe de bénévoles que j'ai eu la chance de rencontrer. Ils sont tous plus extraordinaires les uns que les autres. Et j'ai également rencontré le responsable scientifique du site, Guy Joulin, un botaniste aussi passionné que passionnant. Alors l'arboretum est situé sur la commune du Canet en Roussillon, à quelques kilomètres de Perpignan, dans le département des Pyrénées-Orientales. Il est ouvert tous les jours, de 9h à 19h, et il est gratuit.
Et c'est gratuit, on ne va pas s'en priver.
Et c'est vraiment et une vue sur ce mont du Canigou qui est absolument extraordinaire, qui est un peu leur Fujiyama à eux.
Ah bah oui. Dit comme ça, bah oui. On ira deux fois.
Vrai,
Alain Baraton, vos conseils aux auditrices, auditeurs de France Inter. Johan nous dit d'abord qu'en jardinage et en agriculture, on parle souvent du climat au nord et au sud de la Loire. Qu'est-ce que ça signifie exactement ?
Bah, cela signifie que toutes les plantes ne sont pas véritablement égales face à la météo en France. Vous avez au nord de la Loire des plantes qui généralement sont amenées à subir quelques gelées hivernales et quelques températures élevées en été. Au sud de la Loire, les hivers sont généralement plus cléments. Mais on pourrait rajouter le pourtour méditerranéen. On pourrait également parler de toutes ces bandes de terre le long de l'Atlantique et de la Bretagne. Donc effectivement, les plantes se comportent différemment en fonction du lieu où elles vivent. Il faut en tenir compte pour les dates de semis, pour les dates de récolte. Tout ça n'est pas toujours très simple. Il y a aussi les microclimats. Donc, pour faire simple, généralement, on divise la France en deux. Au nord de la Loire, attention, risque de geler. Au sud de la Loire, il fait beau. Même si c'est un peu caricatural, j'en conviens.
Question à présent d'auditeurs au pluriel, auditeurs inquiets en Moselle, à propos de la chenille processionnaire du chêne, qui est très présente, paraît-il, en Moselle. D'ailleurs, les maires des communes sont souvent démunis et ils parlent d'abattre les chênes colonisés pour éviter les plaintes des habitants. Qu'en pensez-vous ?
Non, il ne faut surtout pas tuer des arbres parce qu'il y a des chenilles dites processionnaires. Il est vrai que les bestioles sont redoutables. Elles ont des poils urticants qui peuvent causer de grands dégâts. Et je me rappelle une pelouse où des chenilles avaient été dispersées après le passage d'une tondeuse. Les conséquences étaient graves pour le fessier des jeunes scouts qui s'étaient, assis dessus. Non, il faut installer des pièges à phéromones. Ils existent. Il y a également des perturbateurs sexuels, d'hormones, qui font que les chenilles sont, peuvent être perturbées. On peut également traiter sur place avec du Bacillus thuringiensis, en se rappelant que le Bacillus tue toutes les chenilles, y compris celles des jolis papillons. Mais il existe aujourd'hui des méthodes. La première, la plus simple et peut-être la plus sérieuse, consiste à retirer les nids, sitôt on les voit. Mais attention, on le fait avec des gants, avec des protections, avec des lunettes, et on le fait même avec du personnel spécialisé.
Et des pièges donc à phéromones. Marianne habite le Var, près de la mer, dit-elle, et elle souhaite planter un arbre près d'une piscine. Elle précise qu'elle a déjà deux oliviers et un citronnier. Auriez-vous, Alain Baraton, des suggestions compatibles avec le climat et surtout peut-être avec la proximité de la piscine?
Je vous ai parlé du caroubier. Le caroubier, c'est un bel arbre, et j'en déduis que c'est le caroubier et l'arbre marrant, parce que le caroubier est l'arbre symbole de Monaco. Le caroubier, Caras, à Monaco, tout est lié finalement. Je crois qu'ils aiment beaucoup tout ce qui est précieux. Mais j'en déduis, quand on connaît l'urbanisation à Monaco, que si on installe des caroubiers, ou du moins si on en a fait l'arbre symbole, c'est qu'il ne craint pas de vivre à côté des éléments d'architecture, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espace végétalisé à Monaco. Alors pourquoi pas des caroubiers? Par contre, ce que je sais, c'est qu'il ne faudra surtout pas planter de mimosa, parce que oui, les racines du mimosa sont un petit peu parfois, à problème.
Question de cette auditrice dont je n'ai pas le prénom. Elle a acheté en 2010 un Dracaena, vous nous expliquerez. Et elle vient de découvrir des exuvies de chrysalides de la teigne du bananier. Vous allez expliquer tout ça. Les professionnels me conseillent d'acheter un traitement contre la teigne du poireau. Finalement, on fait quoi? Et vous allez un petit peu décanter. Hein.
Oui, parce que déjà, je suis très surpris de cette question. Déjà qu'on parle d'exuvie, moi, je suis allé voir dans le dictionnaire de quoi il s'agit. C'est la mue des insectes, que l'on retrouve. Donc, c'est là où on parle de quand les bestioles ont une mue, elles laissent une sorte de peau sur la terre. On appelle ça exuvie. Être ensuite capable de reconnaître la mue de la teigne du bananier, ce n'est pas à la portée de n'importe qui. Donc je pense que l'auditeur ou l'auditrice n'a pas forcément besoin de mes compétences pour répondre. Elle me semble être relativement douée.
Cela dit, oui. Il faut répondre.
Alors le Dracaena, c'est une très jolie plante dite d'intérieur originaire des pays tropicaux, mais il faut savoir que la teigne du bananier s'attaque aussi au Dracaena, au Yucca, au Ficus, au Strelitzia, à quantité d'autres plantes. Donc oui, c'est bien le même produit pour s'occuper ou détruire ce genre de bestioles. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus le droit d'acheter des produits comme insecticide. Eh bien, il vaut mieux tuer la plante, s'en séparer, plutôt que de polluer, parce que malheureusement, le traitement n'y pourra rien.
Un dernier conseil, je vois que vous avez un livre sous les yeux.
Que l'on m'a offert à Perpignan, au cœur de soi, au cœur des arbres, de Bruno Veller et Anne-Laure Rigoulzo-Veller. Le premier est ingénieur agronome, le second directeur en biologie cellulaire. Ils savent de quoi ils parlent. Ce n'est pas un livre qui parle des arbres, c'est un livre qui fait parler les arbres. C'est assez étonnant. Les arbres nous décrivent leurs sentiments, ce qu'ils vous proposent, ce qu'ils vous procurent. C'est joliment fait, c'est très intéressant et c'est drôlement bien écrit.
Les arbres nous parlent.
Et oui, ils nous parlent, ils nous racontent quantité de choses sur nous-mêmes.
Faut arrêter le pétard, la baratte.
Mais non, merci. Mais pas du tout, mais non. Publié chez In Extenso.
Très bien, on lira ça. C'était pour rire. Merci Alain Baraton et à demain à suivre l'invité de la matinale.